Marie-France, est-ce que tu as entendu le premier ministre Justin Trudeau en entrevue avec Paul Arcand ce matin?
Bien sûr, oui, oui, bon, oui.
Ben, il a été question du pacte de Marrakech. Explique-nous un peu, là. Lui, il est très enthousiaste.
Lui, il est complètement enthousiaste. Ça rentre vraiment dans sa ligne de pensée. Oui. Le Canada multiculturel et le monde est un grand tout et on s'aime tous. C'est vraiment dans son pacte, dans son signe, de son, sa manière de penser. Je vais t'expliquer, oui, ce que c'est exactement parce que c'est, on va en entendre de plus en plus parler d'ici lundi. D'abord, c'est un pacte. Ce n'est pas un accord, ce n'est pas un traité, ce n'est pas contraignant. Mais c'est très contesté. Les États-Unis ne signeront pas ainsi qu'une dizaine d'autres pays qui se sont retirés, dont l'Italie, l'Australie, la Belgique, Israël, plusieurs autres. Le Canada va, de toute évidence, signer. L'idée, c'est que les migrants, les flux de migrants dans le monde, c'est, à l'échelle mondiale, c'est donc inéluctable. Alors, mieux vaut que ça se déroule le mieux possible, sans approche défensive de la part des pays qui accueillent. Ce pacte-là ne fait pas de différence entre les immigrants légaux et les illégaux, et c'est vraiment cousu de bons sentiments. Il y a deux grands axes, l'axe de la sécurité et l'axe de l'accueil inclusif. Je disais, c'est pas contraignant pour les États qui vont signer lundi. Ça n'a pas de poids juridique. C'est une déclaration politique, sauf que les recommandations vont être un moyen de pression sur les politiques gouvernementales. Les pays qui vont signer vont évidemment dans ce sens-là et vont s'en inspirer. Et certains craignent que ce soit le socle pour l'élaboration ultérieure de mesures contraignantes. Parmi les recommandations, il y en a une qui fait pas mal parler déjà, un désir de censure, comme pour préparer le terrain à des lois ou à des politiques, entre autres de couper les subventions à tous les médias dans les pays signataires qui diffuseraient des discours jugés xénophobes ou intolérants. Et là, on peut jaser longtemps de ce qui est xénophobe ou intolérant. On a dit que la Charte des valeurs, c'était de la xénophobie, c'était du racisme. On parle du fait que M. Legault veuille diminuer les seuils d'immigration au Québec. Beaucoup l'ont accusé de racisme. Quand Joseph Facal parle d'immigration, juste le fait d'en parler dans le Journal de Montréal, on le traite de raciste. Donc, ça va très loin. Qui va juger de ce qui est raciste ou xénophobe dans les journaux? Est-ce que juste le fait de parler de l'immigration dans toutes ses facettes, parce que c'est un phénomène absolument fascinant, est-ce que ça devient des propos qui appellent à la haine? Il y a vraiment ça qui est très, très, très particulier. Et il y a dans ce pacte l'idée que le monde est une chose commune qui appartient à tous et que ça pourrait entraver les souverainetés nationales, le droit de chaque pays à décider de qui, de combien de migrants il accepte ou non sur son territoire. Et là, tu vois ce qui se passe au Québec actuellement. Ce projet de loi de la CAQ pour diminuer le nombre d'immigrants, ben, ça viendrait, si le Canada signe, c'est quelque chose qui rentre pas dans cette philosophie-là. Donc, on pourrait simplement, au niveau des principes, en discuter longtemps. Et c'est vraiment le thème de la libre migration qui devient un des axes du droit de la personne. Ça va vraiment devenir ça à l'échelle internationale. Donc, certains disent, et je rappelle, ce n'est pas contraignant. C'est vraiment juste un pacte, sauf que ça pourrait avoir des conséquences sur la souveraineté des États, sur toute la discussion des questions identitaires, des questions nationales, sur les politiques intérieures. Ça pourrait avoir des conséquences aussi soulever de l'insatisfaction parce qu'on vient se mêler des affaires des États. Ça pourrait engendrer du populisme politique. Tu comprends? C'est un terrain très glissant, très, oui, très, très glissant, et sur lequel on s'engage avec juste le fait de discuter de ce pacte-là.
Il y a eu plusieurs pays européens qui ont dit non merci.
Absolument.
Parce que tu sais qu'il y a une tendance, évidemment, à élire des gouvernements de droite, particulièrement, oui, en Europe centrale. Le plus à droite, c'est Viktor Orban, c'est le président de la Hongrie qui a dit on veut rien,
exactement,
savoir de ça.
Ainsi
on veut
que
rien
la Pologne, la République
tchèque,
oui, l'Autriche également.
La Bulgarie, la Slovaquie,
oui,
beaucoup.
Mais ce sont des pays, quand tu regardes la carte géopolitique, Paul, ce sont des pays par lesquels beaucoup de vagues de migrants qui arrivaient,
ouais,
par les terres sont arrivés. Pense à l'Italie qui accueille plus que son lot de migrants en ce moment et qui est vraiment, qui ne sait pas quoi faire parce que toute la misère du monde se déverse sur ses rives. L'Italie refuse de signer. Il est clair que la question de la migration, que les flux migratoires ne se tariront pas, ça va poser vraiment des questions aux pays occidentaux, mais ça en pose aussi, je viens de lire un livre absolument fascinant sur l'immigration en Afrique, tous ces Africains qui quittent leur pays pour s'en venir en Europe, et ce sont, contrairement à ce qu'on pense, ce sont ceux qui ont un peu de moyens pour payer les passeurs, ce sont donc ce ne sont pas les plus pauvres de ces pays-là qui quittent, ce sont souvent des gens éduqués et qui privent leur pays, qui privent l'Afrique de ses forces vives jusqu'à un certain... Alors, ça pose des questions chez nous, mais ça pose des questions dans les pays d'où partent ces migrants également. C'est vraiment la géopolitique des prochaines années qui est en jeu. Donc, ce sera probablement signé à Marrakech lundi. Et même, je le répète, si ce n'est pas contraignant, ça va dicter des politiques et nous allons le vivre de plein fouet au Canada. Justin Trudeau qui va signer et les politiques de la CAQ qui sont totalement à l'inverse de ce que dit le pape.
Oui, il a été très prudent, il a marché sur des œufs aujourd'hui. Quand Paul lui a demandé quel genre de relation vous allez avoir en matière d'immigration avec Québec.
Ben oui.
Il a, comme on dit, été très flou.
Il y en avait des œufs dans ce studio-là ce matin.
Oui, hein? Oui, c'était...
Oui, on sentait les coquilles.
Mais de toute façon, ils vont tous être à Montréal. Là, c'est la rencontre des premiers ministres demain.
Ben oui,
même
exactement.
Doug Ford a dit qu'il venait. Parce qu'il avait menacé ce matin de ne pas être là si l'autre jour ne lui plaisait pas. Alors, autre sujet intéressant, le docteur Lionel Carman était en entrevue aujourd'hui à la radio anglophone de Radio-Canada, c'est-à-dire la CBC. Puis là, il a lancé comme une sorte de bombe en disant on devrait peut-être s'interroger et former un comité pour réfléchir sur le passage de l'âge de la majorité finalement en termes de consommation d'alcool de 18 à 21 ans. Poursuivre un peu la tendance là, sur la consommation de cannabis ou la possession de cannabis.
Exactement.
Mais il a été vite rabroué en français par François Legault.
Exactement. Donc, le sujet est clos puisque le premier ministre a dit « Non, le cannabis et l'alcool, c'est pas exactement la même chose. » Ça en dit long sur Lionel Carman qu'on n'avait pas beaucoup entendu s'exprimer et ça ne s'appuie sur aucune preuve scientifique de l'aveu même du docteur Carman et c'est vraiment est très étrange parce que tu te dis coudon, c'est de la prohibition, c'est quoi la prochaine étape? Est-ce que c'est de voter à 21 ans si on n'a pas la maturité requise pour boire de l'alcool ou fumer du tabac à 18 ans? Alors est-ce que c'est voter à 21 ans? Est-ce que c'est conduire à 21 ans? Il y a toutes ces questions-là qui se posent évidemment, mais déjà sur le cannabis, je t'en ai déjà parlé, moi l'idée que la légalisation est je trouve que c'était assez fantaisiste cette promesse que Justin Trudeau tenait absolument à remplir, de décriminaliser, je crois que ça aurait été assez. Il n'était pas obligé de remplir cette promesse électorale et si rapidement. Et au Québec, la CAQ avait promis pendant la campagne de hausser l'âge de la consommation de cannabis à 21 ans. Il n'était pas obligé de la tenir, cette promesse-là. Il pouvait s'apercevoir que ça allait créer peut-être plus de dommages que de bénéfices. Entre autres, entre 18 et 21 ans, ça n'empêchera pas la consommation de cannabis. Les jeunes vont se ruer sur le marché noir comme ils l'ont fait avant la légalisation et l'interdit devient particulièrement alléchant. Avant l'âge de 18 ans, ben c'est comme avant, c'est clair que ça se passe dans la case de Kevin à côté du local d'éducation physique. c'est bien connu. Et ça augmente les risques aussi pour les jeunes de consommer de la scrap, de ne pas connaître la teneur en THC de ce qu'ils consomment, d'être exposés aussi à d'autres drogues parce que sur le marché noir, il n'y a pas que le cannabis comme dans les sociétés d'État. Alors, je trouvais que ça ne faisait pas et c'est pas nécessairement une bonne chose. Et là, on rajoute l'alcool et le tabac. Je trouve que c'est infantiliser les jeunes. C'est une approche de la part du docteur Carman, une approche paternaliste, une approche hygiéniste, et je trouve que ça ne fait pas preuve de grande psychologie. Je le redis, l'interdit est particulièrement attirant pour tout le monde et particulièrement pour les jeunes.
Et François Arnois, notre recherchiste, m'a remis un document. Il a fait une petite recherche fort intéressante. Écoute ça, Marie-France. Le 14 décembre 71, hey, ça ne date pas d'hier, ça se fait 47 ans, les parlementaires québécois ont voté le projet de loi 66. Sais-tu qu'est-ce que c'était, ce projet de loi?
Non.
C'était pour faire passer l'âge de la majorité civile de 21 à 18 ans.
Ah oui.
Écoute, ça fait 46 ans.
Oui.
C'est bien ça, 47 ans. 47 ans maintenant, parce que le 1er janvier 72, la majorité, l'âge de la majorité, passait de 21 à 18.
Et moi, j'ai fait une petite recherche de mon côté pour savoir, dans le monde, quel était l'âge légal pour consommer de l'alcool. Ça a été 21 ans au Canada de 2006 à 2009, mais c'est revenu. Aux États-Unis, évidemment, c'est 21 ans dans la plupart des États, mais en Europe, c'est entre 16 et 18 ans. Et en France, il n'y a même pas d'âge. C'est soumis à la discrétion des parents. Parental, exactement. Alors,
mais on peut comprendre pourquoi le vin est tellement bon.
Oui, il y a ça, effectivement. Enfin, mais
et, et en Italie, Marie-France?
C'est 18 ans, je crois. C'est 18 ans aussi, vraiment. Il y a quelques pays européens qui sont à 16 ans. Mais tout cette espèce de débat qui est mort avant d'être réellement né m'a fait me poser des questions sur le docteur Carman. Excellente réputation de neurologue. Il a fait des recherches sur les mécanismes impliqués dans les dommages cérébraux. Ça a l'air d'un homme préoccupé par le bien, d'un homme dévoué. C'est un scientifique, donc il n'est pas dans l'impression, il n'est pas dans le flou, il est vraiment dans les faits. Mais des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Ça devient du paternalisme, ça devient de la dureté. On peut pas être cartésien dans ces notions de majorité et d'alcool et de tabac à 21 ans. On parle d'interdit ici. On parle aussi de traits d'une société, de la société québécoise, qui est très hédoniste, qui est dans le plaisir. Je pense que les vertus, comme la plupart des gouvernements l'ont compris, les vertus de l'information, de la sensibilisation, de ces grandes campagnes d'information sociétale qu'on a eues sur l'alcool au volant, entre autres, ou sur les dommages causés par le tabac, ont fait beaucoup pour baisser la consommation et de l'alcool et du tabac. Alors, non, vraiment, j'ai l'impression que c'est un moment d'égarement de la part du ministre. Enfin, espérons que c'était un moment d'égarement parce que c'était particulier.
J'ai reçu un courriel d'un auditeur, et je tiens à souligner, et parce que j'ai trouvé ça tellement bon, ça résumait un peu ce que tu viens de nous dire, et toute cette controverse autour de l'âge de 18 ans, ou 21 ans. Il m'a dit, Monsieur Houde, est-ce que vous réalisez que auparavant, jusqu'à tout récemment, là, jusqu'à la légalisation, ça sentait le pot partout. Dans tous les concerts rock, il n'y avait aucune police qui intervenait. Il dit, maintenant que c'est légalisé, les polices vont intervenir dans les concerts
C'est
rock.
Clair.
Mais quel équivoque! C'est exactement ça.
Parce qu'en plus, il y a ça, cet auditeur a parfaitement raison. Il y a la question de, on a tellement resserré l'étau sur les endroits où on peut fumer, même chez toi, si tu n'habites pas sur une île déserte, tu ne peux pas fumer. Donc, effectivement, là, la question de l'âge devient finalement superficielle. Plus personne ne peut fumer nulle part.
Ah non, exactement. Plus personne ne peut fumer. Interdisez donc tout.
Exactement.
On s'arrangera avec le reste.
Oui, c'est ça. Et vive l'interdit.
Et vive pareil.